Cécile Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On espère que vous êtes en forme, déjà debout pour attaquer la journée ou à la fin de votre nuit de travail.
Oui, courage si c'est le cas. Hein. Nous sommes jeudi 30 juin, la fin de la semaine approche et on reste à vos côtés jusqu'à 6h30.
Dans l'actualité aujourd'hui, Julien.
Justice est passée au procès des attentats du 13 novembre 2015 après 10 mois d'audience. Le verdict a été rendu hier soir. On vous le détaille dans quelques instants dans le journal.
Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal.
Où se tient depuis lundi la conférence sur les océans organisée par l'ONU, les Nations Unies, dont le secrétaire général vient de déclarer, je cite, l'état d'urgence des océans.
Des océans malades d'un cancer nommé humain.
Dérèglement climatique, surpêche, pollution plastique et j'en passe, on n'épargne rien à nos océans et pourtant ils nous sont essentiels. Ils nous rafraîchissent, nous nourrissent et nous permettent accessoirement de respirer en produisant la moitié de notre oxygène.
Et à ce sujet, vous recevez Julien.
Patricia Ricard, la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Elle est à Lisbonne où elle va intervenir cet après-midi. Quelles mesures devons-nous prendre d'urgence pour sauver nos océans? La France, qui est une grande puissance maritime, hein, c'est la deuxième zone maritime mondiale, est-elle exemplaire en la matière? On en parle à 6h10 avec donc Patricia Ricard. Avant cela, on va plancher sur l'un des examens les plus importants en France en nombre de candidats. C'est le coup d'envoi ce matin des épreuves du brevet.
850 000 élèves de 3e vont plancher aujourd'hui et demain sur les mêmes sujets de français, mathématiques, histoire, géo et sciences.
Le brevet, c'est une institution qui existe depuis 75 ans, un rite de passage entre le collège et le lycée.
Et pourtant, chaque année, on se demande bien à quoi il sert. Et puis avec la réforme du bac et le nombre d'épreuves divisé par deux, on se demande aussi s'il n'est pas en danger. On posera la question à 6h moins le quart à Claude Lelièvre. Il est historien de l'éducation française.
Et au programme de votre partition,
l'essor de la Britpop qui fait de Londres la capitale la plus cool du monde dans les années 90. La partition de Blur à 6h20.
Mais avant la météo, bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Alors j'ai bien l'impression, c'est important d'avoir cette impression-là, que le temps change aujourd'hui.
Mais oui, vous avez une bonne impression. J'imagine que vous avez regardé le ciel. Et que
surtout votre feuille.
Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de nuages. J'ai essayé de faire un peu de magie, mais ça ne marche pas. Non, il y a beaucoup plus de nuages dans le ciel, vous l'avez constaté, parce qu'effectivement, on a une perturbation qui va traverser le pays. Alors, en revanche, elle n'est pas rapide. Hein. Elle traverse tout doucement, donc elle va stagner sur la moitié nord cet après-midi. En gros, pour vous résumer la situation, il n'y a que la façade est qui reste sous le soleil aujourd'hui, entre l'Alsace et la Méditerranée. Partout ailleurs, c'est très gris. Et entre les Pyrénées et les Hauts-de-France, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, le centre, la région parisienne, il va pleuvoir une grande partie de la journée. Les températures, bah ce matin, elles restent stationnaires. Mais alors cet après-midi, ce front froid là qui nous amène pas mal de pluie, eh bien il va faire chuter le thermomètre. 17 à Lille, on perd 10 degrés. 19 à Paris, on perd 8 degrés par rapport à hier. 24 à Dijon et dans le sud cet après-midi, comptez 27 à 32.
Merci beaucoup Anissa Dadi et à tout à l'heure. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
L'enfermement de quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas, enfin voilà, on peut pas se réjouir de ça. C'est une mort blanche quelque part qu'on lui annonce.
La réaction d'Anaïg, rescapée du Bataclan à l'annonce du verdict au procès des attentats du 13 novembre. Tous coupables et perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, dernier membre encore vivant du commando. On y revient dans un instant. La moitié des Français mangent moins de viande, moins de poisson et piochent dans le bas de laine. C'est ce qui ressort d'une grande enquête Odoxa Europe 1 que nous dévoilons ce matin. Conséquence de l'inflation galopante. Et puis Tour de France J-1. Les coureurs s'élanceront demain de Copenhague, terre de vélo. C'est en tout cas ce qu'a constaté notre envoyé spécial au Danemark. Reportage à la fin de ce journal.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Journal que vous présente comme chaque matin Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. 2 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Verdict rendu hier soir au procès des attentats du 13 novembre. Les 20 accusés ont tous été reconnus coupables après 2 jours et demi de délibération. Gladys Laffitte, c'est vous qui avez suivi ces 10 mois de procès pour Europe 1. Les 5 magistrats ont-ils suivi les réquisitions ?
En tout cas, pour les deux accusés principaux, hein, Salah Abdeslam est condamné à la prison à vie, incompressible comme cela avait été requis. La cour estime qu'il est co-auteur des attentats, au même titre donc que les 9 membres des commandos qui eux sont morts. Ensuite, Mohamed Abrini, son ami d'enfance qui a renoncé au dernier moment, purgera une peine de prison à vie lui aussi, avec une période de sûreté de 22 ans pendant laquelle il ne pourra pas faire de demande d'aménagement de peine. Il est jugé complice des attentats. D'autres le sont aussi, mais les peines prononcées ont été plus clémentes que les réquisitions, tout comme celles qui concernent les soutiens logistiques.
Gladys, que pensent les parties civiles, mais aussi les accusés de ce verdict ?
Il est perçu comme équilibré, humain, c'est en tout cas ce que pense Linda, rescapée du Bataclan.
Quelque part assez soulagée. Globalement, le réquisitoire a été suivi par la cour. Les peines qui ont été prononcées, dans certains cas, ont été plus légères. J'ai quitté cette salle d'audience, je vais quitter ce palais de justice et je ne vais pas y retourner. C'est un chapitre de ma vie là, qui se clôture.
Certains accusés ont paru accablés, d'autres au contraire soulagés, notamment les 3 hommes qui comparaissaient libres. Ils n'iront pas en prison malgré une condamnation.
Merci Gladys Laffitte, journaliste au service police-justice d'Europe 1. J'ajoute que vous serez avec Romain Desarbres aujourd'hui dans Europe Midi pour une émission spéciale autour du verdict du procès. À la sortie de l'audience, justement, notre journaliste Marion Gauthier a fait la connaissance d'Anaïg, rescapée du Bataclan. Pour elle, la perpétuité incompressible prononcée contre Salah Abdeslam est sévère, mais nécessaire.
Moi, mon cœur s'est serré à partir du moment où le juge a commencé à prononcer les peines. Pour Salah Abdeslam, j'attendais la perpétuité incompressible, clairement. Ça correspond déjà au réquisitoire que je trouvais extrêmement juste. Donc oui, j'en attendais pas moins de la justice. Même si on peut dire qu'effectivement, il n'a tué personne. Il a fait partie quand même des commandos, donc l'intention pour moi, elle était là, quoi. L'enfermement de quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas, enfin voilà, on peut pas se réjouir de ça. C'est une mort blanche quelque part qu'on lui annonce, quoi. Ce soir-là, a brisé des milliers de familles. Je fais partie de ceux qui sont encore très en colère et je veux pas les humaniser. J'ai pas envie de les humaniser. Je leur en voudrais toute ma vie.
Le témoignage d'Anaïg, rescapée du Bataclan, micro Europe 1 de Marion Gauthier.
5h04 sur Europe 1. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour tentative de viol visant Damien Abad.
Enquête qui fait suite à la plainte déposée par une femme en début de semaine accusant le ministre des Solidarités de faits qui remonteraient à 2010. Il s'agit de la 3e femme à accuser Damien Abad de violence sexuelle.
On vous dévoile ce matin une enquête exclusive sur notre pouvoir d'achat et sur l'inflation. Sondage Odoxa pour FG2A et Europe 1.
Et on le sait, l'inflation concerne toute l'Europe. Chez nous, elle atteignait 5,2% au mois de mai. Les estimations du mois de juin seront publiées tout à l'heure par l'INSEE. Maud Descamps, vous avez décrypté cette enquête pour nous ce matin. Et ce que vous constatez, c'est que les Français, de plus en plus inquiets, changent leur façon de consommer.
Oui, 9 Français sur 10 déclarent avoir déjà constaté les effets de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Entre le prix des carburants, de l'énergie malgré le bouclier tarifaire ou encore des produits alimentaires qui subissent une forte hausse, hein, plus de 4%, plus de la moitié des Français ont déjà modifié leur comportement de consommation en se reportant par exemple sur des produits moins chers ou premier prix ou encore en achetant moins de viande ou de poisson. Les premières économies réalisées par ces ménages concernent les vêtements et les loisirs. Des changements également sur les habitudes de transport. Un tiers des Français déclarent avoir modifié leur mode de transport, notamment avoir délaissé la voiture pour une solution plus économique comme le vélo, le bus ou le métro. La perte de pouvoir d'achat suscite aussi des inquiétudes chez les locataires et les propriétaires qui ont peur de ne pas pouvoir payer leur loyer ou rembourser leur traite. Et enfin, sachez que plus d'un tiers des Français assurent avoir déjà touché à leurs économies pour faire face à l'inflation. Certains ont même contracté un ou plusieurs nouveaux prêts pour assurer leurs dépenses du quotidien.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Et en vue des vacances d'été qui débutent officiellement la semaine prochaine, Total Energy doit annoncer aujourd'hui un geste en faveur des automobilistes.
Une remise de 12 centimes à la pompe dans ses 120 stations-service d'autoroute à partir de demain. Additionnée à la ristourne de 18 centimes du gouvernement, l'économie devrait être d'environ 15 euros pour un plein de 50 litres.
12 centimes donc, c'est 2 centimes de plus que la ristourne de 10 centimes actuellement accordée par par Total. Du côté du gouvernement, on confirme le versement d'une aide alimentaire pour les 9 millions de foyers les plus modestes, mesure contenue dans le projet de loi pouvoir d'achat qui devrait être présenté mercredi prochain au Conseil des ministres.
100 euros plus 50 euros par enfant. Un autre chèque alimentaire sur les produits bio, frais et locaux est envisagé, selon Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement.
Projet de loi qui sera présenté au Parlement dans la foulée. En attendant, aujourd'hui à l'Assemblée, on élit le président de la Commission des Finances.
La NUPES présente la candidature de l'insoumis Éric Coquerel, accusé par son rival Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy de vouloir servir les intérêts de Mediapart. Réponse du candidat de la gauche.
Non, je rassure tout le monde. Moi, je ne vais pas me servir de la présidence de la Commission des Finances pour des intérêts particuliers ou je ne sais quel vendetta politique. C'est pas ça l'objet. Par contre, oui, on va se servir de ce genre de principe possible. Par exemple, faire des commissions d'enquête sur l'évasion fiscale. Récemment, vous le savez, McDonald's a été pris la main dans le sac avec plus d'un milliard grâce notamment à des avocats comme Eva Joly. Bah, je pense que ça pourrait être le rôle de la Commission des Finances de travailler un peu plus sur ce sujet. Mais ça, c'est le propre d'une opposition politique. C'est pour ça qu'on a estimé que le président de la Commission des Finances devait être d'une opposition politique et non pas compatible avec la majorité ou avec le même système. Voilà, donc je l'assumerai, mais que les gens se rassurent, je n'aurai pas de ligne directe avec je ne sais quel média.
Éric Coquerel au micro Europe 1 d'Alexis de la Fontaine. Hier, le Palais Bourbon a élu ses 6 vice-présidents. Valérie Rabault du PS, Élodie Jacquier-Laforge pour le Modem, Naïma Moutchou d'Horizon, l'insoumise Caroline Fiat et les Rassemblements National Sébastien Chenu et Hélène Laporte.
On termine ce journal par les sports. J-1 avant le début du Tour de France.
Les coureurs s'élancent demain de Copenhague où la présentation des coureurs s'est déroulée hier dans une ambiance plus que festive. Il faut dire qu'au Danemark, on aime pédaler. Axel May.
Partout à Copenhague, les habitants se déplacent à vélo. C'est un mode de vie, ici, raconte Anna Orlando, une responsable de l'Office du tourisme danois.
Vous ne voyez que des gens qui se déplacent en vélo, et de tout âge, donc les enfants et même les personnes âgées. Qu'ils fassent beau ou mauvais temps, les Danois vont toujours en vélo, vivent en fait sur des roues.
Le mobilier urbain est même adapté, avec par exemple des poubelles penchées qui permettent de jeter ses déchets tout en pédalant. À Copenhague, chaque habitant est réputé posséder au moins une bicyclette, et sur des pistes intelligemment conçues, le code de la route est respecté, impensable de griller les feux rouges. Mais attention, si vous êtes piéton, à ne pas empiéter sur les voies cyclables, au risque de vous faire impitoyablement réprimander à coups de sonnette. Si la petite reine y est avant tout pratiquée comme moyen de locomotion, le Danemark est aussi une terre de cyclistes professionnels. Ils étaient 11 au départ du Tour de France en dernier, un record. Ils seront presque autant cette année, si le Covid ne s'invite pas, dont Jonas Vingegaard, deuxième de la Grande Boucle 2021, et Mats Pedersen, champion du monde 2019. Et à Copenhague, des panneaux publicitaires souhaitent bon tour au peloton, ce qui en danois se dit
« God sugle toi ».
Axel May, qui sera l'invité de Philippe Vandel ce matin dans Culture Média à partir de 9h. Je me risque pas au danois.
Si, allez. Non. Si, vous êtes en Konigsblu. Ok.
C'est le nom d'un meuble Ikea, ça.
Pas loin, oui. Merci beaucoup, Alban Le Prince.
Il est 5h09 et on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 411 Orandi. Dans cette course où tous les chevaux seront à vendre au plus offrant, il est parmi les 12 partants l'un de ceux qui possède à l'évidence l'une des premières chances. D'ailleurs, son entraîneur Yon Elare Alvarez n'a pas hésité à effectuer un très long déplacement depuis l'Espagne avec un seul objectif, la victoire. Dès lors, connaissant le sérieux de ce professionnel espagnol, il serait surprenant que son protégé ne puisse pas justifier sa confiance. Notez bien pour ce soir à Longchamp, réunion 1, dans la quatrième course, le numéro 11, Orandi.
Le numéro 11, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger et on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Sans oublier Johan Tritz avec nous pour le pressing. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Johan. On commence avec vos journaux et ce ras-le-bol en une du Parisien aujourd'hui en France. Près de 10 000 chantiers à Paris. Les travaux, c'est l'enfer, titre Le Quotidien qui parle de gestion anarchique de l'espace public. La maire Anne Hidalgo, de son côté, défend ses aménagements au nom de l'urgence climatique. Je vous vois lever les yeux au ciel, ma chère Omblin. Covid, cachez cette vague, suivi de 3 petits points. Voilà ce que l'on peut lire en une de Libération qui estime que le gouvernement est dans le déni face au rebond des contaminations. On termine avec cette question en une de l'Opinion. Macron est-il en train de cramer la caisse, s'interroge le journal libéral, alors que la France est le seul pays européen qui dépense plein pot, je cite l'Opinion, quand nos voisins, eux, prévoient des baisses de leurs dépenses publiques. Omblin, on commence avec vous.
On perd le sens commun hein, quand on roule en voiture dans Paris, hein, vraiment.
On perd beaucoup de choses.
On devient complètement dingo. Voilà. Toute autre chose, la fin de l'année scolaire approche, la fin de saison, hein, comme on dit ici. Les grandes vacances commencent officiellement dans une semaine. Hein, youpi, c'est la saison des pots de départ, des petits fours, des coupettes de mousseux pour fêter la reconversion de Marc à la compta, le départ en retraite de Françoise, la secrétaire de direction. Tout le monde s'est cotisé pour un petit cadeau. C'est commun. Et il n'y a pas que les collègues qui arrivent avec un joli paquet et une carte signée glissée sous le ruban doré. Le patron aussi veut marquer l'instant et remercier celui ou celle qui part avec un cadeau de départ. Imaginez une pochette dans laquelle a été placé deux stylos, une place de cinéma, pas deux, hein, juste une. Un paquet de bonbons et un verre. Voilà comment Burger King a récompensé l'un de ses employés pour près de 30 ans de bons et loyaux services. Kevin Ford a été embauché en 1995 dans la chaîne de fast-food. Il tient la caisse au restaurant de l'aéroport de Las Vegas aux États-Unis. $15 donc de cadeaux pour un employé modèle qui n'a pas manqué un seul jour de travail. La scène a été filmée et postée sur le réseau social TikTok. Kevin Ford découvre donc toutes ces petites attentions les unes après les autres et il est content vraiment en toute bonne foi avec fierté et gratitude. Il publie même une photo avec sa récompense sur Instagram. Toute la toile s'insurge, choquée, les internautes pointent du doigt Burger King. Ils ne lui ont vraiment donné qu'un seul ticket de cinéma. Tout le monde s'arrête sur ce ticket de cinéma. Devant un tel élan de solidarité et face aux différentes propositions d'aide, la fille de Kevin Ford décide de lancer une cagnotte pour son père. Elle a atteint hier les $237,000.
Ah, oui, d'accord. On est sur du gros paquet cadeau. C'est voilà. Beaucoup de tickets cinéma avec ça.
C'est un beau cadeau de départ. Interrogé par le journal Today, Kevin Ford explique qu'il est comme dans un rêve. Et quand on lui demande ce qu'il a ressenti quand il a découvert la pochette cadeau, il a répondu « Vous savez, la plupart des gens n'ont rien, donc je suis juste heureux d'avoir quelque chose. » Il est quand même, c'est un saint, hein, ce Kevin Ford. D'après les dernières informations, Burger King n'aurait pas participé à la cagnotte, c'est-à-dire dans 20 minutes notamment.
Radin jusqu'au bout. Merci beaucoup, Omblin. Johan, on vous écoute.
Oui, on le disait, c'est bientôt le top départ des grandes vacances pour les Français, mais certains, surtout les étudiants, vont plutôt en profiter pour se faire un peu d'argent avant la rentrée et travailler. On connaît les petits boulots estivaux classiques dans les fast-foods, les saisonniers dans l'agriculture, les animateurs de vacances, et je ne vais pas tous les citer, mais il y a des petits chanceux, si on peut dire, qui vont avoir le droit, parce qu'il faut être choisi, à des jobs plutôt insolites. Et sur son site web, Le Figaro en liste quelques-uns. On commence avec l'initiative de MyConsou, un site qui recueille les avis pour des entreprises ou des marques en échange d'argent. Par exemple, tout à l'heure, je suis allé dessus et j'avais la possibilité de tester des articles de sport à Lyon contre 60 euros. Mais il y a aussi d'autres propositions, tester des produits de beauté, des plats, mais aussi des voitures. Oui, oui, avions et hôtels payés en plus pour faire le voyage. Il suffit ensuite de partager son expérience avec une bonne précision quand même pour recevoir l'argent. Mais attention, il faut avant tout être choisi. Les candidats sont sélectionnés avec soin, avec un questionnaire à remplir. Et un autre job aussi est à pourvoir pour les plus grands fêtards par Schlouk, organiser et participer aux soirées. L'application qui répertorie 7000 bars en France, Belgique et Grande-Bretagne propose des CDD de 10 heures par semaine. Le poste s'appelle City Manager Event. Un ou deux soirs maximum par semaine. Il faut se rendre aux fêtes, préalablement organiser, faire en sorte que tout le monde s'amuse au maximum. Plutôt pas mal. Et on a évidemment le fameux testeur de vacances. Bellambra offrait cet été 10 postes de rêve. L'objectif, tester gratuitement durant une semaine 5 clubs français. 6000 candidats ont été recueillis pour ce poste de courte durée, payé 300 euros en plus la semaine de vacances.
On est payé pour aller en vacances.
Pour aller en vacances, tout à fait.
J'aime beaucoup ce concept.
Ouais, il faut bien sûr effectuer un retour avec les points positifs ou négatifs.
Ouais. Pas faux. Ouais. Vous savez, il y en a qui ne connaissent pas trop.
Ouais, mais avec en plus, bien sûr, un club hein, tout frais payé. Ah, oui. Donc, je le disais, avec des retours avec les points positifs et négatifs, sinon c'est trop facile à donner. Enfin, mon petit préféré, ouais. Gardien de pingouins en Antarctique. Oh. C'est une association de Grande-Bretagne qui le propose, mais le CDD est un peu plus long, 6 mois. Le job consiste donc à surveiller ces oiseaux à la base britannique de Port Lockroy. Pas seulement, il faut aussi s'occuper de la poste du coin en réceptionnant le courrier, mais aussi accueillir les visiteurs. C'est un travail tout de même éprouvant, explique l'association. Il y a peu de réseaux et peu de pauses. 4 postes sont à pourvoir et plus de 6000 demandes ont déjà été reçues.
Gardien de pingouin.
Ça fait rêver, mais c'est un peu
froid. Chic sur le CV.
C'est
hein.
Ça, ben oui, hein, c'est la
merci
classe.
Beaucoup, Yo. Je vais vous parler à présent de l'un de mes héros d'enfance, un astronaute, ou plutôt un ranger de l'espace à la devise mondialement connue.
Vers l'infini et au-delà.
Voilà, évidemment. j'avais reconnu, évidemment. Buzz l'éclair, l'un des personnages clés de Toy Story, petit chef-d'œuvre sorti en 1995. Et bien, après 27 années passées dans l'ombre du shérif Woody, notre intrépide Space Ranger a décidé de prendre son envol tout seul comme un grand. Buzz l'éclair, le film, est depuis un peu moins de 2 semaines en salle et il enregistre des scores tout à fait honorables en France. S'il enregistre des scores tout à fait honorables en France, aux États-Unis, en revanche, c'est une catastrophe, nous apprend cet article du Point. Il visait l'infini et l'au-delà, il s'est contenté d'un modeste vol en rase-motte, ironise l'hebdomadaire. Et pourtant, Pixar n'a pas lésiné sur les moyens pour ce film, pas comme les autres, puisque c'est le premier des célèbres studios à retrouver la lumière des salles de cinéma aux États-Unis depuis le début de la pandémie, d'où ce budget astronomique de 200 millions de dollars. Mais force est de constater qu'entre le public américain et Buzz l'éclair, le coup de foudre n'a pas eu lieu. Le film a déçu dès son premier week-end d'exploitation en totalisant seulement 50 millions de dollars de recettes sur le sol de l'Oncle Sam, soit 20 de moins qu'escompté. Mais c'est surtout le deuxième week-end qui a tourné au crash pour le Ranger des Étoiles avec un plongeon de 65% de son chiffre d'affaires. Mmh. Une performance d'autant plus inquiétante que tous les autres films à l'affiche ont cartonné, que ce soit Top Gun Maverick, le dernier Jurassic Park ou encore Elvis. Tous ont vu leurs recettes grimper en flèche. C'est un camouflet historique pour Disney, le propriétaire des studios Pixar. Même l'échec en 2018 de Solo, un énième film Star Wars obscur, n'avait pas été aussi cuisant. Le blockbuster centré sur la jeunesse du pilote du Faucon Millennium avait été qualifié à l'époque d'échec industriel. Voilà qui promet pour Buzz l'éclair.
Alors comment se fait-il que le film marche aussi mal aux États-Unis alors qu'il cartonne ici en France?
Alors déjà parce qu'en France, on est d'une fidélité sans faille avec les productions Pixar et plus largement avec les films d'animation qui sont une spécialité nationale. Mais ça n'explique pas le râteau éclair de Buzz au box-office outre-Atlantique. Le tout Hollywood est en train de se pencher sur la question. Alors, premier coupable désigné, le concept même du film, centré uniquement sur un seul personnage de l'univers Toy Story. Que serait Buzz l'éclair sans le cow-boy Woody, Monsieur Patate et les autres? Pixar a sous-estimé le caractère choral de sa franchise. Deuxième explication, la stratégie privilégiée par Disney pour les films Pixar pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, pendant la pandémie. Il y en a eu 3 de films, Luca, Soul et Alerte Rouge, et bien les 3 sont sortis directement en streaming sur Disney+, sans passer par la case cinéma, la case salle de cinéma aux États-Unis. La firme aux grandes oreilles avait alors besoin d'alimenter sa plateforme naissante en contenu premium, mais elle n'imaginait pas à quel point cette pratique est à double tranchant. En clair, Disney a habitué le public américain à ne découvrir les derniers Pixar qu'à la maison, si bien qu'aujourd'hui, aller voir Buzz l'éclair au cinéma apparaît comme une dépense inutile pour les Américains, car dans seulement 1 mois et demi, ils pourront découvrir les dernières aventures du Space Ranger dans leur salon via leur abonnement standard Disney+. L'abus de streaming a-t-il tué Buzz l'éclair au box-office? C'est à lire sur le site du Point.
Merci beaucoup Julien et merci Yann. On se retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Vers l'infini et l'info, le journal permanent Alban Le Prince.
Tous coupables, les accusés au procès des attentats du 13 novembre ont été condamnés hier à des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, dernier membre encore vivant du commando. Alors que les estimations de l'inflation pour le mois de juin sont attendues ce matin, Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, confirme qu'une aide de 100 euros sera versée aux 9 millions de foyers les plus modestes avec 50 euros de plus par enfant. Et puis dans les aéroports parisiens d'Orly et Roissy, début de la galère aujourd'hui. Mouvement de grève à l'appel des syndicats qui réclament au moins 10% d'augmentation pour tous les salariés. Conséquence, 1 avion sur 6 annulé aujourd'hui entre 7 et 14 heures. Demain, la pagaille va s'intensifier.
On passe aux initiatives en France, la chronique qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger le pays. Et ce matin, Julien, direction le Loiret.
Bonjour Joris Bacco.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes de bon matin. Vous êtes le fondateur de Mon Hangar, une jeune start-up basée à Orléans. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez exactement?
Écoutez, chez Mon Hangar, on fait quelque chose de très simple. On aide les agriculteurs français à se créer un revenu complémentaire, tout simplement en capitalisant sur ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire leur entrepôt, leur hangar, ou voire même des terrains extérieurs. Et ces personnes-là, justement, ont souvent de la place dans ces entrepôts et on leur permet de rencontrer une clientèle de particuliers qui ont des véhicules de loisirs comme des camping-cars, des bateaux, des caravanes ou des professionnels. et on les met en relation, on s'occupe de tout ce qui est voilà, la facture, le contrat, le service après-vente, pour que justement les seconds puissent stocker leur objet, leur véhicule chez les agriculteurs.
C'est un peu le Airbnb du hangar, si je puis me permettre.
Alors oui, c'est la comparaison directe, elle est simple comme ça à comprendre, mais en effet, c'est un peu comme du Airbnb, entre un besoin et une offre, et en effet, nous, on est au milieu pour faciliter la mise en relation, simplifier le travail de l'agriculteur et être un gage de confiance pour le particulier qui, bien souvent, c'est l'achat de toute une vie, hein, un camping-car, un bateau. Donc voilà, on joue le tiers de confiance entre les deux parties. Et voilà, on est une place de marché pour faciliter la mise en relation.
Alors vous parlez des camping-cars qui sont très demandés en ce moment, en tout cas depuis le premier confinement, les Français en ont redécouvert les vertus. Mais effectivement, ça prend de la place, ce genre d'engin. Ça coûte combien en moyenne de parquer son camping-car chez un agriculteur ?
Alors, il y a un peu tous les prix selon ce que vous souhaitez, ce que vous demandez comme prestation. Si vous êtes proche de la mer, si le hangar pardon est proche de la mer, proche d'un axe autoroutier, mais en moyenne, et aussi savoir si c'est un bâtiment couvert ou un bâtiment à moitié fermé ou un terrain en plein air. Mais en moyenne, on peut s'attendre entre 30 et 50 euros par mois pour un camping-cariste. Et en effet, un camping-car, ça prend de la place. Et c'est pour ça que l'on existe aujourd'hui, pour simplifier le stockage de ces gros véhicules.
Alors, vous ciblez les particuliers, on l'a entendu. Est-ce que vous ciblez également les entreprises ? Je pense par exemple aux entreprises du bâtiment, du BTP, qui pourraient être intéressées pour stocker leurs tracteurs, par exemple, ou leurs engins de chantier ?
Alors, complètement. Et on a lancé le service il y a quelques semaines maintenant et ça marche plutôt très bien. C'est-à-dire qu'en effet, on a des entreprises un peu partout en France, de différentes tailles. On va de la filiale de grands groupes à des petites TPE qui ont justement un besoin de stockage, à la fois pour sécuriser leur matériel, comme vous l'avez dit, à la fois d'être simplement plus proche de leur chantier pour éviter à chaque fois de traverser une agglomération et de perdre du temps tous les matins, et aussi simplement pour que les équipes puissent reposer à un moment donné tranquillement, sans être forcément sur le terrain ou chez le client.
Votre solution, monhangar.fr, ça peut être une source de revenus non négligeable pour les agriculteurs, au bout du bout ?
Alors oui, c'est même le but premier de l'agriculteur aujourd'hui, c'est de préparer sa retraite et d'avoir un complément de retraite, ou un jeune agriculteur qui se lance et qui veut justement avoir une diversification de ses revenus aujourd'hui. Le contexte économique de l'agriculteur, je pense qu'on le connaît tous, on a tous des relations avec les agriculteurs aujourd'hui, et en effet, c'est un revenu. En moyenne aujourd'hui, sur nos premiers mois d'existence, sur une année, on est capable de créer entre 1500 et 3500 euros de revenus annuels pour un agriculteur.
Oui, ce qui n'est pas négligeable. Ouais.
Non, tout à fait. Mais tout dépend en effet de ce que propose aussi l'agriculteur. On n'est pas dans la surpromesse, on est là pour lui simplifier la vie. Souvent, ces agriculteurs font déjà cette activité-là. Ce concept-là existe depuis des années, hein. C'est pas nous qui l'avons inventé. Par contre, nous, on veut justement centraliser l'ensemble de ces offres, centraliser ce service-là au cœur d'une plateforme simple en France pour que tout le monde s'y retrouve.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. C'est une super initiative en tout cas et ça s'appelle monhangar.fr, le site qui met en relation les agriculteurs disposant d'un espace inexploité, on l'a compris, avec des particuliers ou des entreprises qui souhaitent stocker leurs biens. Merci beaucoup Joris Bacco et à bientôt.
Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil à tous, bonjour, merci de nous avoir choisis pour votre réveil. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre avec le verdict des attentats du procès du 13 novembre. Et puis une pensée ce matin aux 856 000 élèves, il y en a beaucoup, de 3e qui passent les épreuves écrites du brevet.
Ils commencent avec le français, ils resteront penchés sur leur copie. Vous savez pendant combien de temps ? Pendant 3h15.
Ah bon ?
Oui, ça dure longtemps l'épreuve de français, c'est la plus longue. Viendront ensuite les mathématiques cet après-midi, l'histoire géo et les sciences demain. L'obtention du diplôme du brevet repose pour moitié sur ces épreuves et pour une autre moitié sur le contrôle continu, mais il ne conditionne pas le passage au lycée. À quoi sert le brevet ? Question qu'on se pose tous les ans. Quelques éléments de réponse dans un quart d'heure avec l'historien de l'éducation française, Claude Lelièvre.
La météo, Anissa Haddadi, des plus bénéfiques aujourd'hui pour nos terres bien arides.
Oui, elles ont besoin de ces pluies. Eh bien, on va en avoir aujourd'hui. Le temps change effectivement avec la réactivation d'un front froid entre les Pyrénées et le Nord. Et ce front froid, il emmène une perturbation avec pas mal de pluie. À l'est, entre l'Alsace et le pourtour méditerranéen, le soleil reste bien présent. Il va faire chaud, hein, chaud et lourd sur toute la façade est aujourd'hui. Cet après-midi, c'est sur les régions du centre et du nord que les pluies vont vraiment stagner. C'est une perturbation qui ne bouge pas beaucoup. Et puis à l'avant de cette perturbation, les températures élevées vont favoriser le développement des orages. Et là, on va rester très vigilant parce que ça risque d'être très électrique et très violent dans le nord-est entre les Alpes et le Jura cet après-midi. 9 à Saint-Brieuc ce matin, 15 à Paris, 20 à Nice. Et alors cet après-midi, ça dégringole sur la moitié nord. 16 à Aurillac, hier on avait 24, 18 à Lorient, 19 à Paris, hier on avait 27 degrés, 30 à Lyon et jusqu'à 32 degrés à Manosque.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, excellent réveil à tous. À l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
C'est un grand vide qui s'annonce, mais c'est beaucoup de soulagement, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est fini.
Le soulagement et la satisfaction d'une rescapée des attentats du 13 novembre 2015 après la lecture du verdict hier soir, un procès exemplaire qui est la première pierre d'une lente et douloureuse reconstruction. Reportage dès le début de ce journal. Les 20 accusés sont tous reconnus coupables. La peine la plus sévère pour Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible. L'unique rescapé du commando qui a fait 130 morts finira sa vie en prison. Et puis dans ce journal, la lutte pour décrocher la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale, elle se résumera à un duel entre la NUPES et le Rassemblement national.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Rarement un verdict aura été aussi attendu. 6 ans après la sanglante nuit du 13 novembre 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris a clos le plus long procès de l'histoire judiciaire française. Les 20 accusés sont tous reconnus coupables. Les peines prononcées varient en fonction de leur degré d'implication, de 2 ans à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, seul rescapé du commando tueur. Verdict accueilli avec satisfaction par les parties civiles. Pour les survivants, la fin de ce procès est aussi un soulagement. Reportage Océane Théard.
Le verdict vient d'être prononcé. Sophie sort de la salle d'audience et s'effondre. Derrière les larmes de cette survivante du Bataclan, il y a l'attente longue, près de 150 jours d'audience à ressasser une nuit d'horreur. Et puis, d'un coup, le vide et un poids qui paraît s'envoler des épaules de la jeune femme.
On va savourer, c'est un grand vide qui s'annonce, mais c'est beaucoup de soulagement. On va enfin pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est fini.
Plus loin, José accuse le coup derrière un sourire tranquille. Lorsqu'on lui demande s'il est apaisé après le verdict, il lance...
Posez-moi la question dans 3 mois.
José a perdu son fils, tué par balle au bar La Belle Équipe.
On a vu un procès mémorable par rapport à la défense que l'on devait à notre fils, Victor. Est-il apaisé? Sommes-nous apaisés parce que nous le rencontrons souvent en Père-Lachaise? Non, les parents ne sont jamais apaisés.
Car si le chapitre judiciaire touche à sa fin, affirment les parties civiles, les blessures du 13 novembre ne se refermeront pas.
Reportage au Palais de Justice de Paris d'Océane Théard.
Alors la peine la plus lourde, on l'a vu, c'est pour Salah Abdeslam qui a renoncé au dernier moment à se faire exploser. Ce sera la prison à vie, sanction rarissime prononcée 4 fois seulement dans l'histoire. C'est ce que retient d'ailleurs l'un des avocats de la défense. Les juges n'ont pas condamné uniformément. Au contraire, ils ont bien distingué la part de responsabilité de chacun, estime maître Xavier Nogueras.
On peut que constater que les peines sont plutôt correctes, qui font preuve d'humanité, qui prennent en considération ce qui a déjà été accompli, le positionnement des uns et des autres pendant ces 9 mois, la manière dont ils ont pu s'exprimer, se raconter non seulement leur rapport aux faits, mais également leur rapport à la vie, leur rapport à leur passé, à leur famille, à ce qui les ancre définitivement et profondément dans cette humanité qu'on a autant de temps essayé de leur ôter, simplement parce que c'était le procès des attentats du 13 novembre. C'est pas parce qu'effectivement on a autant de douleurs, de sang et 132 morts et des centaines et des centaines de blessés que ces individus qui ont comparu avec ces charges-là étaient tous des monstres et qu'ils étaient tous dénués d'humanité. Et je pense que la réponse judiciaire qui a été apportée, cette individualisation, eh bien, elle leur rappelle un petit peu cette humanité sur ces bancs des accusés.
Maître Xavier Nogueras, l'un des avocats de la défense au micro de Marion Gauthier, les 20 accusés ont 10 jours pour faire appel de leur condamnation.
Et ce verdict du procès des attentats du 13 novembre, on en reparlera notamment dans Europe Midi, émission spéciale autour de Romain Desarbres, avec notre journaliste spécialiste police-justice, Gladys Lafitte, qui a suivi ces 10 mois d'audience, des invités en studio, et vos questions, vos réactions en direct au 39-21. Il est 5h passées de 34 minutes à présent sur votre antenne. L'Assemblée nationale continue de se mettre en ordre de marche avec l'élection de la présidence de la très convoitée Commission des Finances. La gauche redoute un nouveau coup de Trafalgar.
La NUPES ne décolère pas après la désignation de 2 députés du Rassemblement National au poste de vice-président du bureau de l'Assemblée, une première dans l'histoire. Elle y voit le résultat d'une entente entre la majorité, les élus LR et RN. Une telle manœuvre peut-elle se reproduire pour la présidence de la Commission des Finances ? 2 candidats s'affrontent, Éric Coquerel pour la France Insoumise et Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National, Victor Chabert.
Oui, d'un côté l'insoumis Éric Coquerel, 63 ans, et de l'autre Jean-Philippe Tanguy, 36 ans. Le premier a passé sa jeunesse à la Ligue communiste révolutionnaire avant de cofonder le parti de gauche et devenir l'un des stratèges de Jean-Luc Mélenchon. Le second, souverainiste gaulliste, ancien bras droit de Nicolas Dupont-Aignan, a rejoint Marine Le Pen en 2020 et était son directeur adjoint de campagne lors de l'élection présidentielle. Les deux hommes sont reconnus pour leur sérieux. Éric Coquerel est un des députés les plus actifs de l'Assemblée nationale depuis 2017. Les proches de Jean-Philippe Tanguy vante sa solidité sur les questions de finances publiques et son parcours diplômé de Sciences Po et de l'ESSEC. Ce sont 2 visions du rôle de président de la Commission des Finances qui vont s'affronter. Éric Coquerel veut s'en servir pour lutter contre la fraude fiscale, quand Jean-Philippe Tanguy veut incarner un travail de contrôle consciencieux. Arithmétiquement, en étant le candidat commun de la NUP, l'insoumis a l'avantage, sauf si les Républicains décident de soutenir Jean-Philippe Tanguy, un scénario qui semble peu probable. La présidence de la Commission des Finances devrait donc revenir, sauf surprise, à Éric Coquerel.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Et cette journée de jeudi sera entièrement consacrée à la constitution des commissions permanentes. L'Assemblée en compte 8 avec celle des Finances.
Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale mardi prochain, discours qui pourrait ne pas être suivi d'un vote de confiance. La Première ministre maintient le suspense à l'heure actuelle là-dessus. Elle va devoir en revanche gérer l'affaire Damien Abad. Le ministre des Solidarités est visé par une enquête judiciaire.
Enquête ouverte pour tentative de viol après la plainte d'une élue centriste. Elle accuse le ministre d'avoir tenté de la violer en juin 2010 lors d'une soirée à son domicile.
La fin du sommet de l'OTAN à Madrid, l'Alliance Atlantique renouvelle son soutien à l'Ukraine.
Aussi longtemps que nécessaire, promet son secrétaire général. L'OTAN s'accorde sur une série de mesures en faveur de l'Ukraine. Livraison de matériel militaire à l'exclusion des armes. Une aide à la cyberdéfense. L'Alliance muscle par ailleurs son propre dispositif de défense. Plus de 300 000 hommes mobilisables à tout moment. La Russie est clairement désignée comme le danger numéro un pour la sécurité. De quoi satisfaire Oleksiy Grodchenko. Ce député ukrainien souhaite que son pays puisse à terme intégrer l'OTAN.
Les pays de l'OTAN, ce sont les nôtres alliés dans cette guerre. Et pour nous, c'est très important. Et je suis sûr que l'Ukraine, en futur, en avenir, va être membre de l'OTAN. C'est la guerre, pas seulement contre l'Ukraine, mais contre toute l'OTAN et tout le monde libre. Malheureusement, je n'écoute pas très clairement qui est l'objectif de le monde libre dans cette guerre. Je suis absolument sûr que l'Ukraine va gagner cette guerre. Mais la question, quand et avec combien de victimes ?
Oleksiy Grodchenko, député ukrainien d'Odessa, au micro de William Molinier.
On termine ce journal avec un coup de chapeau à l'un des lauréats des Trophées de l'Avenir européen.
Prix qui récompense les meilleures innovations dans plusieurs catégories. Henri Trintignac remporte le prix Mobilité pour sa Gulplug, une prise de chargement pour les voitures électriques.
C'est un dispositif qui permet de connecter automatiquement la voiture au réseau. Vous mettez ça chez vous et vous vous stationnez comme d'habitude. La voiture se connecte automatiquement. C'est une technologie magnétique. Et la voiture est branchée. Vous remontez dans la voiture, la batterie est pleine, vous pouvez repartir. Pas de changement d'habitude, c'est vaincre 2 freins qui freinent les gens pour passer à l'électrique. C'est le risque sur l'autonomie et la corvée de la charge. Ces 2 choses-là sont résolues. Nous sommes déjà en relation avec plusieurs constructeurs automobiles et nous avons des projets avec 4 des 5 plus grands constructeurs automobiles mondiaux.
Henri Trintignac, vainqueur des Trophées de l'Avenir européen dans la catégorie mobilité. Vous pouvez retrouver la liste complète des lauréats sur notre site europe1.fr.
On n'y manquera pas. Merci beaucoup Christophe Lamarre pour ce journal. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est un Quintet réservé exclusivement à la jante féminine qui nous est proposé ce soir. Gérard sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et parmi les 16 juments, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Sparklia, le numéro 10, deuxième d'un quintet similaire le 25 février à Chantilly, puis sixième le 12 avril à Fontainebleau sans avoir eu ce jour-là le meilleur des parcours. Volontairement ménagé depuis, en vue de cet objectif, cette jument bien née devrait pouvoir justifier les bruits favorables dont elle fait l'objet le matin sur les pistes d'entraînement. L'opposition sera constituée par les numéros 13, la Haute Hill et 3, Pink Intellectual. Deux pouliches lyonnaises entraînées par l'incontournable Jean-Pierre Gauvin qui ne tarit pas d'éloges sur ses deux protégés avec Beautiful Aspen, le numéro 7, à ne surtout pas condamner. Sur son dernier échec le 1er juin à Saint-Cloud, la jument étant ce jour-là sous l'influence de son sexe. Enfin les numéros 5, Galifa, 6, Fayona, 12, Grâce Béret et 8, Nottingham compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 13, 3, 7, 5, 6, 12 et 8.
Oh, j'ai pas noté.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Vous êtes sauvés, vous allez pouvoir tous les retrouver et surtout les noter tranquillement. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu de...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Il y a 40 ans, était lancé le Minitel. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Laure, l'objet avec son petit écran, son aspect tout en plastique, sera un succès considérable et restera longtemps très populaire.
Oui, c'est le symbole de la réussite des télécoms à la française. Dans les années 80, il y a le TGV, la fusée Ariane et le Minitel. Au départ, c'est un simple annuaire, le 36-15, 60 francs pour une heure, l'équivalent de 9 euros. Puis, le commerce en ligne se développe, les messageries aussi. En 1985, écoutez, c'est une petite révolution, il est possible de trouver les résultats du baccalauréat sur le Minitel.
Il suffira de taper sur le Minitel le code A. M, on trouvera les résultats des épreuves du baccalauréat qui aura lieu aujourd'hui en C et D.
Bac C à l'époque, filière mathématiques, bac D, spécialité sciences. Les personnalités politiques s'y mettent aussi. En 1986, Pierre Mauroy, ancien Premier ministre, se prépare à répondre aux questions de Français posées via le Minitel.
Au fond, c'est une ambiance chaude, ce sont des questions chaudes.
Et vous êtes prêt à répondre à toutes les questions, même personnelles ?
De façon correcte, quoi.
Alors ce service s'appelle la gauche assistée par ordinateur. Oui, c'est pas un assemblage de termes un peu bizarre.
Je vois, c'est assisté qui vous fait mal, quoi.
Moi, je lis gauche assistée par ordinateur.
C'est bien que la gauche ait le souci de l'ordinateur, quoi.
À la fin des années 70, Valéry Giscard d'Estaing avait vu les choses en grand, Laure, et prévoyait la fabrication de 30 millions de Minitel.
Oui, un pour chaque foyer, sauf que les grands patrons de presse y voient un danger pour leurs journaux papier et ils font pression pour freiner son déploiement. Le Minitel, c'est aussi le Minitel rose, évidemment, dont les messageries sont taxées à partir de 1992. Le ministre du budget de l'époque, Michel Charras, est agacé de devoir s'occuper de ce dossier.
Moi qui ne regarde jamais le Minitel rose, je ne sais même pas comment ça marche, je ne sais pas faire fonctionner un Minitel. Non mais vous imaginez, j'ai actuellement un certain nombre de fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts qui sont obligés de s'astreindre à regarder tous les jours ou tous les soirs ou la
les
nuit,
pauvres.
Je ne sais pas comment ça se passe, le Minitel rose et je préférerais que ce soit des gens plus spécialisés qu'ils fassent.
Alors en 2012, c'est effectivement la fin du Minitel et les derniers utilisateurs se réunissent une dernière fois avant son débranchement final. Ce médecin l'a longtemps utilisé dans son cabinet.
Et très sécurisé, beaucoup plus que qu'Internet. C'était rigolo, puis en plus, les enfants, ils demandaient ce que c'était, parce qu'ils voyaient l'ordinateur, et puis ils voyaient ce truc à côté, ils disaient, c'est quoi ça ? Les parents, ils rigolaient, ils disaient, bah, c'est un Minitel. Ah ouais, ça marche encore, ce truc-là.
Et lors de la suppression du Minitel en 2012, 2 millions de personnes en France l'utilisaient encore.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant, sur Europe 1, les élèves de 3e face à leur copie du brevet des collèges.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée sur Europe 1. Il est 5h44 et c'est aujourd'hui et demain qu'un peu plus de 856 000 élèves de 3e vont passer les épreuves écrites du diplôme national du brevet, une institution qui, dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, existe depuis 1947, un diplôme vieux donc de 75 ans, mais qui a connu de nombreux ajustements.
Bonjour Claude Lelièvre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes historien de l'éducation française et vous êtes l'auteur du livre « L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire » paru aux éditions Odile Jacob. Les élèves de 3e dans toute la France vont plancher sur les mêmes sujets de français, mathématiques, histoire, géo et sciences. Le brevet est l'un des examens les plus importants chez nous en nombre de candidats. Mais depuis des décennies, Claude Lelièvre, il est habituel d'entendre que le brevet ne sert à rien. Alors pourquoi est-il toujours maintenu ?
Il n'a jamais eu le rôle qu'a eu le certificat d'études primaires, qui était fait pour, disons, des bons élèves du peuple, ni celui du bac qui était fait pour les bons élèves de l'élite. Et donc, il n'a pas eu du tout l'aura historique, il n'a toujours pas, de ces deux examens emblématiques. Alors, c'est parce qu'au fond, il était dans un statut intermédiaire, et encore maintenant, par certains côtés, il est toujours dans un statut intermédiaire. D'abord, le brevet a été institué dès le début du 19e siècle. Et on parlait de brevet de capacité. Alors, brevet de capacité, ça voulait dire qu'on était capable de faire ceci ou cela. Et c'était donc par rapport à certains métiers, comme par exemple le métier d'instituteur. Il fallait avoir un brevet de capacité pour être instituteur ou bien certains types de métiers d'employés, etc. Et puis, à partir de 1947, c'est devenu le BEPC, c'est-à-dire un brevet de premier cycle du secondaire. Autrement dit, ce n'était plus vraiment un examen ayant son autonomie propre, puisqu'on est normalement la scolarité secondaire en deux. Mais, on n'avait pas besoin du BEPC pour rentrer quand même en seconde et continuer ses études.
Ce qui est toujours le cas aujourd'hui.
C'est toujours vrai. Et même à un certain moment, à partir de 78, c'est même l'inverse qui a existé. C'est-à-dire que si on passait en seconde, on pouvait demander à obtenir le diplôme du BEPC, sans passer quoi que ce soit, simplement parce qu'on passait en seconde. Et puis, au début des années 80, là, c'était sur les résultats scolaires, on pouvait avoir le BEPC. Donc, il a été assez évanescent pendant toute une période. On a même pensé qu'il allait totalement disparaître.
Dans les années 80, d'ailleurs, ce que vous dites, l'examen, à proprement parler, a disparu.
Il a disparu dans les années 78 à 81.
Oui.
Il est revenu, mais il pouvait être attribué sans examen sur les seuls résultats scolaires. Et c'est Chevènement, en 86, qui a réintroduit une épreuve, et une épreuve nationale, pour revaloriser le diplôme et motiver davantage les élèves. Donc,
le brevet des collèges est souvent présenté comme un moyen de préparer les adolescents aux futurs examens. Est-ce qu'il a, selon vous, cette vertu, au moins, d'être une répétition générale avant le bac ou avant d'autres concours ?
Eh bien, ça a été un des arguments de Chevènement pour faire passer ce retour d'examen. C'est encore souvent invoqué, mais je pense aussi qu'il a pour rôle, pour les enseignants, de fixer un certain cap, un rappel à l'ordre en disant « bon, vous allez passer cet examen ». Donc ça donne un cadre national peut-être un peu plus affirmé aux études du premier cycle. Et puis ça fait un rappel à l'ordre peut-être utile pour les professeurs vis-à-vis de leurs élèves.
Et puis c'est tout un symbole aussi, c'est la première vraie épreuve avant le bac, donc avant même le permis de conduire. C'est ça finalement aussi qui justifie son existence, qui lui donne une importance d'être le premier examen, le rite de passage.
On peut peut-être soutenir ça en disant que bon, c'est une première épreuve, c'est la première épreuve que l'on a, et au fond c'est la première épreuve. Mais c'est considéré au fond comme une sorte de brouillon. Je veux dire que c'est une épreuve qui n'a pas une ampleur décisive sur le destin scolaire ou le destin optionnel, sélectif. Alors que par exemple, c'était pas le cas pour le certificat d'études où c'était un parchemin envié à bon nombre d'élèves dans les années 50 et ce n'a pas du tout le même rôle que pour le bac. Donc c'est toujours quelque chose de transitoire. Alors cela dit, depuis 2 ou 3 ans, et d'ailleurs d'une certaine manière vous y faites un sort et vous y participez, au fond il commence à avoir une certaine ascension. C'est peut-être parce qu'on commence à oublier le certificat d'études dans les mémoires que le baccalauréat apparaît presque comme un certificat de fin d'études secondaires et du coup, il apparaît un peu plus. La preuve, c'est que les médias maintenant s'y intéressent, alors qu'apparemment, ils ne s'y intéressaient pratiquement pas.
Alors avec un baccalauréat réformé où le contrôle continu est valorisé, où on a divisé le nombre d'épreuves par deux, on a le sentiment quand même que le rituel de l'examen auquel on était tant attaché a fait son temps. Est-ce que le brevet alors est en danger si on regarde dans les futurs...
Il est régulièrement en sursis parce qu'il ne s'inclut pas normalement dans la logique du socle commun. Le socle commun, c'est une série de capacités que l'on obtient et normalement que l'on obtient de façon relativement continue. Et donc en 2013, il avait même failli disparaître en disant après tout, la logique du socle commun, c'est au fond de scander, mais par un contrôle continu, l'obtention de certaines capacités, de certaines compétences. Puis finalement, ça a été maintenu. Et donc, on en est là et il est maintenu avec, d'une certaine manière, un lustre dans l'opinion peut-être plus fort qu'auparavant.
Alors, pour en revenir à la première question, finalement, à quoi il sert? Concrètement, ceux qui détiennent uniquement le brevet aujourd'hui peuvent accéder à quelle formation, à quel concours?
Quelques concours qui demandent plus ou moins de façon claire ce brevet des collèges, mais il a perdu de son lustre par rapport au brevet de capacité en ce qui concerne, disons, un aspect pré-professionnel, en tout cas, où on doit l'avoir pour certains concours, c'est quand même relativement rare. C'est au fond, sa seule justification, c'est de dire on rentre dans le cycle où on va passer des examens. C'est-à-dire le cycle du secondaire, où là, on va passer des examens à partir de la première, de la terminale, et avec le contrôle continu, c'est peut-être un cycle vraiment de passage d'examen. Mais c'est tout, d'une certaine manière. Donc, c'est le rôle du brouillon, c'est le rôle de l'essai, sans grande conséquence, en fait.
Merci beaucoup, Claude Lièvre, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes historien de l'éducation française, vous êtes l'auteur du livre « L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire » paru aux éditions Odile Jacob. Et donc une pensée aux 850 000 élèves de 3e qui s'apprêtent à plancher sur les épreuves du brevet. Ça commence ce matin avec le français. Merci, bonne journée.
Au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce jeudi, le journal permanent, Alban Le Prince.
Et vous, sentez-vous l'impact de l'inflation sur vos finances? 9 Français sur 10 le constatent selon un sondage exclusif Odoxa pour Europe 1 que nous vous dévoilons ce matin. Entre explosion des prix du carburant, de l'énergie ou encore des produits alimentaires, 50% des Français changent leurs habitudes de consommation. L'actualité ce matin, c'est aussi le verdict au procès des attentats du 13 novembre. Des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible ont été prononcées à l'encontre des accusés hier soir. Et puis l'OTAN promet de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire face à la cruauté de la Russie. Réponse de Vladimir Poutine qui dénonce les ambitions impérialistes de l'Alliance.
Allez, on passe à table à présent avec Olivier Pouls.
Bonjour Olivier.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour Olivier. Alors au menu ce matin et un incontournable de l'été, les pêches, les nectarines et les brugnons, des fruits délicieux que l'on ne sait pas toujours différencier.
Eh bien oui, en ce moment elles sont là, côte à côte sur nos étals. La saison s'étale de juin à septembre et je ne sais pas si vous avez une préférence et si vous savez faire la différence.
Alors oui, les brugnons sont mes préférés, ils sont la police.
Ah ben on va détailler tout ça, moi je les aime tous. Alors il faut savoir qu'au départ c'est la pêche qui commence, elle est originaire de Chine. Elle a été introduite en Europe par Alexandre le Grand, mais sa culture se développe vraiment au XVIe siècle. Le brugnon et la nectarine sont eux issus de la mutation de pêcher. Ils ont tous les deux été créés par l'homme, figurez-vous. Le brugnon est d'origine française, alors que la nectarine nous vient des États-Unis. Et elle n'est arrivée chez nous qu'après la Seconde Guerre mondiale. On peut donc considérer qu'ils font partie de la même famille, même s'il existe quelques différences. Alors allons-y.
Oui.
Bon, la peau, tout d'abord la pêche, elle a une peau duveteuse, c'est très douce. Elle a un goût un peu plus sucré, donc moins acide que le brugnon et la nectarine.
Les deux autres sont en revanche plus difficiles à différencier, Olivier.
Parce qu'ils ont la même peau, lisse, comme vous l'avez dit. Le brugnon est plus fragile, c'est pourquoi on le rencontre un peu moins. La nectarine, elle peut avoir la chair ou la peau de différentes couleurs, hein, rouge, orange ou jaune. Et surtout, son noyau se détache facilement de la chair. C'est ce qu'on appelle une drupe à noyau libre, contrairement au brugnon, dont le noyau reste bien attaché, et c'est ce qui permet en fait de bien les reconnaître. Il faut presque les couper, les ouvrir pour faire la différence.
Alors en matière de pêche, il existe de nombreuses variétés.
Bah oui, absolument, plus de 300. Alors on les range dans 4 grandes catégories, ce qu'on appelle d'abord les pêches traditionnelles, les rondes à chair jaune, plutôt rustiques, c'est celles qu'on voit en grande majorité. Vous avez les pêches plates qui, elles, sont très à la mode. On les trouve depuis une vingtaine d'années. Ce sont des variétés qui ont été créées par l'INRA, en réalité, qui ont été obtenues par croisement. Elles ont une forme sympathique qui, je pense, les rend très attractives.
Et puis, elles sont faciles à manger.
Et faciles à manger, exactement. Vous avez les pêches de vigne aussi, à la saveur très marquée, qui s'adaptent à des climats un petit peu plus rudes, que moi, j'aime beaucoup. Je pense que, personnellement, c'est ma préférée. Et puis, vous avez les pêches blanches. Elles sont très fragiles et elles ont un goût délicieux et subtil.
En cuisine, les pêches peuvent se décliner de nombreuses façons, y compris, Olivier, en salé.
Oui, il y a une association qui marche très bien avec une salade de haricots verts et de la mozzarella, par exemple. Petite huile d'olive, 2-3 gouttes de citron, c'est délicieux. Elle peut aussi se marier avec le porc. Vous n'avez qu'à essayer de faire quelques brochettes de mignons de porc avec des morceaux de pêche qui sont intercalés. Et vous pouvez cuire tout ça au barbecue si vous en avez un. Vous verrez, là aussi, le fondant du porc, le moelleux de la pêche et ce petit côté sucré, c'est absolument délicieux.
Merci Olivier.
Bonne journée.
Bonjour. Il est entre 2 et 6 heures du matin. Et si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie de la famille des Lefto. Et comme plein de Lefto, vous êtes artisan ou commerçant au volant de votre utilitaire, réfléchissant à tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui et vibrant au rythme des ronflements du moteur. Alors que vous pourriez au moins vous épargner ça au réveil. Oui, ça, les vibrations et le bruit du moteur, en passant à l'électrique. L'électrique, tôt ou tard, vous y viendrez. Alors autant le faire très tôt, avant tout le monde.
Toute la gamme utilitaire Peugeot existe en 100% électrique.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et votre invité Julien.
Patricia Ricard, la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui est à Lisbonne où se déroule depuis lundi la conférence sur les océans organisée par l'ONU, les Nations Unies, dont le secrétaire général vient de déclarer, je cite, l'état d'urgence des océans. Ils nous sont indispensables, ils produisent la moitié de notre oxygène, ce sont nos poumons, mais on est en train de les rendre gravement malades. CO2, surpêche, pollution plastique, il faut réagir de toute urgence et c'est le sens de cette conférence où est attendu aujourd'hui Emmanuel Macron. La France est-elle exemplaire en la matière? Comment préserver nos mers alors que des compagnies minières veulent désormais forer par 3000 mètres de fond? On en parle dans une dizaine de minutes avec Patricia Ricard. On écoutera ensuite Omblin votre partition.
Le retour dans les années 90 quand la Grande-Bretagne est en pleine renaissance musicale. Blur ou l'apogée de la Britpop dans 20 minutes.
Mais avant, c'est le retour de la météo et d'Anissa Haddadi. Majorité, pluie et nuages aujourd'hui.
Oui, sur quasiment toutes les régions, sauf à l'est, entre l'Alsace et la Méditerranée, là sur toute la façade est, on a un temps très ensoleillé aujourd'hui et surtout très lourd, il va faire chaud. Partout ailleurs, c'est couvert avec cette perturbation qui arrive de l'Atlantique, qui donne ce matin des pluies entre les Pyrénées et le Nord. Et cet après-midi, eh ben, la perturbation, elle avance quasi pas, elle fait du surplace et du coup, eh bien, c'est entre le Limousin et le Nord, en passant par la région parisienne, que le temps sera gris et pluvieux. Mais ces pluies, on en a besoin et en plus, elles tombent bien, ce sont les pluies parfaite parce que ce ne sont pas des pluies orageuses qui vont tomber très fort d'un coup, ce sont des pluies classiques qui vont faire du bien à nos terres. En revanche, en parlant d'orage, on va rester très vigilant en deuxième partie de journée où on attend à l'est, où il va faire très chaud aujourd'hui, des orages très violents entre les Alpes du Nord et la Franche-Comté. Ça va concerner le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort et là, ça risque de taper fort.
Qui ont déjà payé le prix fort ces derniers jours.
Ça a déjà été violent, effectivement. Alors cet après-midi, il va faire chaud à l'est. 31 à Strasbourg, 30 à Lyon, 29 pour Annecy et Belfort, 26 à Dijon. Ailleurs, ça dégringole. Hein. 21 à Bordeaux, 19 à Paris et 16 à Pau.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Excellent début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 30 juin. Il est 6h. Au supermarché, à la pompe, en vacances, elle est partout. Elle, c'est l'inflation. 9 Français sur 10 l'ont ressenti sur leur pouvoir d'achat. C'est l'une des leçons du baromètre Europe 1. Alors, quels sont les secteurs les plus pénalisés? Reportage dans un instant. Le jour d'après, pour les rescapés des attentats du 13 novembre 2015, hier, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible. Une justice saluée par les parties civiles que vous entendrez. Et puis, à la fin de ce journal, le mystère des océans, un allié contre le réchauffement climatique. Comment explorer sans exploiter? C'est l'enjeu du sommet international cette semaine à Lisbonne.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal, c'est avec Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Alimentation, loisirs, transport. Et vous, comment faites-vous des économies? Un Français sur deux bouleverse ses habitudes de consommation. C'est l'une des leçons du baromètre Odoxa FG2A Europe 1 qu'on vous dévoile ce matin.
Le coupable, devinez, l'inflation, bien évidemment, plus 5,2% en mai selon l'INSEE et jusqu'à plus 7% à l'automne.
Alors pour faire des économies, vous êtes nombreux à rogner en priorité sur le budget habillement, y compris pendant les soldes en ce moment et jusqu'au 19 juillet. Vérification faite avec notre correspondante à Strasbourg, Tatiana Geiselman.
Je vais juste acheter des chaussures, c'est tout.
Rachel n'a qu'un seul sac à la main, des baskets soldées, et ce sera son seul achat de la saison.
D'habitude, j'achète aussi plus pour mes enfants. Je leur achète une tenue d'été ou deux tenues d'été. Cette année, non. Je préfère les emmener en vacances.
Même son de cloche chez Karine, qui se tourne désormais vers des vêtements d'occasion, notamment pour habiller sa fille de 8 ans.
C'est quasiment toutes les saisons où il faut un peu changer. Alors je récupère beaucoup d'amis, et depuis quelques temps, j'achète beaucoup sur Vinted, parce que c'est moins cher et je trouve ce que je veux.
Gaëlle doit, quant à elle, réussir à contenter sa fille de 19 ans, fan de mode. Alors sa technique à elle, c'est de traquer les bonnes affaires.
On achète moins, ou alors on va acheter plutôt des trucs pas chers, ou sinon on va sur les marchés des fois, ou les soldes ou la braderie.
Mais pour l'instant, rien d'intéressant pour le duo mère-fille qui repart les mains vides, en attendant peut-être une nouvelle démarque. Strasbourg, Tatiana Geiselman, Europe 1.
Et des soldes qui ne relancent pas d'ailleurs la fréquentation des commerces. Les visites chutent même de 15% ce mois-ci par rapport à l'année dernière, selon la Fédération Proco.
Il y a le budget habillement, il y a aussi le budget carburant.
Oui, et le pétrolier Total Energy augmente légèrement sa petite ristourne pour les automobilistes. Ce sera 12 centimes par litre et non plus 10. Réduction valable dans les stations-service du groupe cet été.
Vos congés d'été qui démarrent peut-être dès aujourd'hui, pour quelques chanceux. Et si c'est le cas, attention à la pagaille dans les aéroports parisiens.
Oui, avec un avion sur 6 annulé jusqu'à 14h à Orly et Roissy. 62 avions Air France resteront notamment sur le tarmac. Une réduction du programme de vol face au préavis de grève déposé par les syndicats des pompiers du groupe ADP. 6h02, tous coupables, la vingtaine d'accusés condamnés hier soir au procès du 13 novembre 2015. 2 ans de prison jusqu'à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, considéré comme l'un des auteurs des attentats et non juste comme un complice. Une peine rare qui rend sa libération quasiment improbable. Épilogue d'un verdict de 120 pages lu par les juges dans une salle d'audience bondée. Parmi les parties civiles, Arthur Desnouveaux, rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'évocation de ces 120 pages. C'est le fait qu'on n'a pas fait 10 mois de procès pour finir rapidement. C'est une confiance renouvelée en le fait que le verdict est juste. J'ai quand même l'impression d'un immense gâchis, quoi. On envoie des gens en prison, il y a eu plus de 130 morts et la justice, elle vient évidemment réparer l'innommable. Mais en réparant, on ne revient pas en arrière. Et donc avant de penser l'après, je vais déjà digérer le fait que quelque part, on a fini une première boucle. Maintenant, il faut penser la suite. J'espère quand même pouvoir conjuguer le mot victime au passé et... Je me sens prêt à faire autre chose, en fait.
Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris, une page qui se tourne donc pour les 2800 parties civiles au procès. David Fritz Göppinger rend hommage au travail exemplaire de la justice.
On a 3 accusés libres qui repartent libres. On a Salah Abdeslam qui prend quand même une peine qui a été prononcée que seulement 4 fois, il me semble, sauf erreur de ma part. Et donc voilà, on sent que c'est pour ça que je dis que c'est l'histoire. C'est qu'il y a un contraste auprès de ces sentences qui est quand même notable. Et malgré la gravité des faits, j'ai l'impression que la Cour a entendu et a édulcoré les peines selon ce qui s'est passé ici en 10 mois. Quoi. Que ce soit en tant que partie civile, en tant que journaliste, en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant que magistrat, on n'y est pas encore. Peut-être que dans un mois, on aura enfin le recul de comprendre ce qui vient de se passer.
David Fritz Göppinger, l'un des otages des terroristes du Bataclan.
On en vient à présent à la bataille pour la présidence de la Commission des Finances. L'Alliance de la Gauche et le Rassemblement National se disputent ce poste stratégique.
Oui, avec Jean-Philippe Tanguy pour le RN, Éric Coquerel pour la NUPES, qui devrait l'emporter grâce à ses 18 députés membres de cette commission, sauf si les Républicains ou la majorité s'en mêlent. Bref, un match serré pour une commission particulièrement convoitée. Margot Faudéré nous explique pourquoi.
Premier pouvoir de la Commission des Finances, elle contrôle tous les ans le budget de l'État. Le document présenté par le gouvernement et qui définit les dépenses et les recettes publiques pour l'année à venir. Si elle a ensuite des doutes sur l'utilisation des finances publiques, elle peut demander à vérifier sur pièce et sur place comment a été dépensé l'argent public. Si elle identifie une défaillance, elle peut alors convoquer et auditionner les ministres. La Commission des Finances ne peut pas porter plainte directement ou attaquer en justice, mais elle dispose de moyens suffisants pour mettre en place une pression médiatique sur les ministres. Examiné. Autre pouvoir important du président de la commission, il peut rejeter les amendements apportés au projet de loi lorsqu'il estime que la mesure est mal financée. Troisième pouvoir du président de la commission des finances, celui de réclamer des déclarations fiscales des entreprises ou des particuliers dans le cadre de ses enquêtes budgétaires, un droit majeur et qui donne accès à des informations sensibles. Si la loi protège le secret fiscal et interdit au président de divulguer ces données, certains députés craignent qu'un président mal intentionné organise des fuites, un scénario qui inquiète dans le contexte contexte actuel de crise à l'Assemblée nationale.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.
Face au réchauffement climatique, la France progresse. C'est l'observation positive du Haut Conseil pour le climat qui a rendu son rapport annuel hier.
Et oui, l'instance indépendante note une baisse générale des émissions de CO2 dans tous les secteurs de notre pays. Et c'est une première. Une réponse qui reste toutefois encore trop timide pour le Haut Conseil, à cause notamment de la dégradation de nos capacités de stockage en carbone. C'est le rôle par exemple de nos forêts ou de nos océans.
La protection des océans, c'est justement l'enjeu du sommet des Nations Unies qui se tient cette semaine au Portugal.
Et la France sera représentée aujourd'hui par Emmanuel Macron qui fait le déplacement. Autour de la table, deux camps s'opposent, des pays qui veulent commercialiser les minerais et des fonds marins. Face à eux, des scientifiques défenseurs de l'exploration avant l'exploitation. Louis Salé.
C'est un domaine de recherche qui commence tout juste à recevoir des financements. Pour vous donner une idée, 12 hommes ont déjà marché sur la Lune, 4 seulement ont atteint le plancher océanique. Les chercheurs doivent d'abord répertorier les espèces, explique Jean-Marc Daniel. Il dirige le département des fonds marins de l'Institut français d'exploitation de la mer.
Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 9 dixièmes des espèces vivant dans l'océan restent à découvrir. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi comment elles fonctionnent dans des conditions très sévères pour nous. C'est souvent plus de 300 à 500 fois la pression atmosphérique, à des températures tout temps très froide, de 1 à 2 degrés, tout le temps sans lumière.
Comprendre puis s'inspirer de ces stratégies permettra d'innover scientifiquement, à l'image des micro-organismes qui répliquent leur ADN et dont on se sert déjà pour les tests PCR. On ne sait également pas grand-chose des sols marins sur lesquels sont fixés les câbles où transitent 98% du trafic Internet mondial. Ces sols sont instables, des avalanches sous-marines peuvent survenir. Il faut les connaître pour sécuriser le transport de nos données numériques. Enfin, si on sait à peu près dans quel coin se nichent les métaux convoités pour construire les batteries, leur quantité et leur qualité est impossible à évaluer. Tout reste encore à mesurer.
Louis Salé, spécialiste environnement d'Europe 1.
Merci beaucoup pour ce journal, Romain Oquet. À tout à l'heure.
Il est 6h07. On passe au sport et on commence avec vous, Johan Tritz, et avec l'événement de chaque été. Il débute demain.
Je vois très bien de quoi vous voulez parler. On bline du Tour de France qui démarre demain de Copenhague. Et hier avait lieu la présentation des équipes avec la plus grande ovation remportée par le coureur local de la Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, deuxième de la grande boucle l'an dernier. Écoutez l'ambiance à sa montée sur le podium.
Are you ready, Tivoli, from Denmark, last year's runner-up, Jonas Vingegaard.
Belle ambiance du coup sur le podium, mais le Danois portait un masque pour l'occasion car la menace du Covid plane.
Et d'ailleurs, l'un des chouchous du public français, Thibaut Pinot, n'a failli pas s'y présenter.
Et oui, on a appris hier que le coureur de 32 ans, vainqueur d'étape à 3 reprises sur le Tour, avait été testé positif il y a quelques jours. Mais pas d'inquiétude, le coureur de la Groupama FDJ est tiré d'affaire.
Il y a quand même pas mal de stress au final. Maintenant, c'est une histoire ancienne et voilà, il faudra peut-être quelques jours pour m'en sortir à 100%. Mais pour le Tour de France, je suis vraiment optimiste. Ouais.
Ouf de soulagement donc et propos recueillis par Martin Lange. Le Tour de France avec Thibaut Pinot donc et 31 autres Français à suivre avec Europe 1.
On continue, Johan, avec les bonnes nouvelles en tennis cette fois-ci. Une belle journée pour les tricolores hier.
Oui, ils étaient 5 sur les courts du gazon londonien pour le deuxième tour. 3 s'en sont sortis. Hugo Humbert d'abord, vainqueur de Casper Ruud, le finaliste de Roland-Garros. Mais aussi Caroline Garcia et Diane Parry. On espère au moins la même réussite aujourd'hui pour les 6 Français en lice, avec notamment le novice Hugo Grenier. Le joueur de 26 ans n'avait jamais participé à un grand chelem jusque-là et a remporté son premier match. Il vit tout simplement une idylle de l'autre côté de la Manche.
C'était un rêve, bien sûr. Moi, c'est même, j'avais jamais joué les qualifs, donc là, c'est vraiment mon premier Wimbledon et c'est un rêve d'enfant et de gagner en plus, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Hugo Grenier au micro de Jean-François Pérez pour Europe 1.
Merci Johan, c'était le journal des sports de Johan Tritz.
Un mot de météo juste avant de poursuivre. Météo France vient de placer 10 départements à l'instant en vigilance orange pour orage. Ce sera entre 14h et 22h. Anissa Haddadi nous en parlait, ce sera dans l'est de la France. Je vous donne les départements, le Haut-Rhin, les territoires de Belfort, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Loire et l'Isère. Vous restez avec nous dans un instant. L'ONU déclare l'état d'urgence des océans. On en parle dans une minute avec Patricia Ricard, la présidente de l'Institut Océan Océanographique, Paul Ricard, à tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h11, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Votre invité, Julien, est la présidente de l'Institut Océanographique, Paul Ricard.
Bonjour Patricia Ricard.
Bonjour Julien Pierre.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis Lisbonne, au Portugal, où se déroule depuis lundi la conférence sur les océans organisée par l'ONU. Conférence où sont réunis des dizaines de ministres et de chefs d'État. Emmanuel Macron est d'ailleurs attendu aujourd'hui à cette réunion. Où vous allez intervenir tout à l'heure? Quel va être votre message, Patricia Ricard?
Le message, il est le même que celui porté par toute la communauté des gens qui s'intéressent à l'océan. Je crois que vraiment, pour reprendre un petit peu les propos de M. Boutière, nous avons atteint un niveau d'urgence où on ne peut plus reculer devant l'évidence. Les océans souffrent de tous nos impacts, que ce soit le réchauffement climatique qui va réchauffer les eaux de surface, qui va acidifier l'océan. L'océan souffre de tous les rejets de nos activités humaines. L'océan souffre de l'érosion de la biodiversité à travers une pêche qui reste encore pour beaucoup de stocks trop importante. Et puis il y a également la problématique de la pêche illégale, non réglementée, non déclarée. C'est-à-dire qu'en fait, si on se rend compte, la plupart de nos activités ont un impact direct sur l'océan. Mmh. Et l'océan nous envoie des alarmes inquiétantes d'épuisement. Il y a, Dieu merci, quelques bonnes nouvelles sur la prise de conscience. On comprend maintenant qu'il est important d'accélérer la connaissance scientifique. Les décisions internationales aujourd'hui doivent être portées par la raison scientifique et par la connaissance. Donc ça, c'est encore une chose...
C'est pas toujours le cas.
Ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, vraiment, il commence à y avoir vraiment un consensus international sur cette nécessité de bien prendre l'avis des scientifiques en compte. Et ça, je crois que c'est une des avancées. On a également l'engagement de certains États, et notamment le grand retour de la France sur cette scène internationale, parce qu'il faut bien comprendre que l'océan est un patrimoine mondial de l'humanité.
On va y revenir sur le rôle de la France, voilà. Si vous me permettez. Juste avant, j'aimerais revenir sur les propos du secrétaire général des Nations Unies, vous les avez mentionnés, qui a déclaré il y a 2 jours un état d'urgence des océans. Notre échec à les préserver aura des effets en cascade. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il entend par effet en cascade ?
Alors, l'effet en cascade, il faut comprendre que l'océan sera soit l'accélérateur des dérèglements de nos sociétés, soit le socle de notre résilience. L'océan étant le principal maître du climat, si nous ne faisons pas nos engagements carbone, nous allons aller vers un dérèglement de cette machine climatique et malheureusement, on en voit déjà les effets. On voit les effets les pluies diluviennes, les dérèglements des régimes climatiques sur la planète. Nous avons également le risque d'effondrement des pêcheries. Il faut quand même se souvenir qu'un homme sur deux vit des produits de la pêche et notamment les États les moins développés ou les petits États insulaires qui sont pour le moins responsables, les moins responsables de l'aggravement de la situation climatique et qui sont en première ligne, que ce soit par l'effondrement des petites pêcheries locales, mais également des risques de submersion et des risques climatiques sur leurs côtes. Donc on est vraiment une situation... Alors c'est sûr que parler d'état d'urgence quand il y a la guerre, c'est un petit peu... c'est une image forte, mais je crois qu'il a vraiment voulu secouer les consciences et montrer qu'il était vraiment temps d'agir.
Et rappeler que les océans sont indispensables à la vie sur Terre. Ils génèrent la moitié de l'oxygène que l'on respire et absorbent un quart du CO2 que nous produisons.
Oui, et ils absorbent également aussi beaucoup de la chaleur résiduelle que nous avons émis, nous, sociétés humaines, dans l'atmosphère depuis l'ère industrielle. L'oxygène, c'est 50% de l'oxygène nécessaire à la biosphère, pas seulement pour nous les hommes, mais également pour non seulement les 80% de la biodiversité que représente la biodiversité marine, mais l'ensemble de la planète. L'océan est vraiment le régulateur de l'équilibre de la biosphère, et ça, je crois que maintenant, on commence à en prendre conscience. Ce qu'il faut maintenant, c'est accélérer les coalitions, accélérer les partenariats, accélérer les décisions et surtout accomplir les actions cibles de l'objectif durable 14, qui est celui des océans et de la vie marine.
L'acidification des océans, la surpêche, la pollution plastique, tout ça, vous le constatez au quotidien à l'Institut océanographique Paul Ricard que vous présidez. Je précise à nos éditeurs qu'il est situé sur l'île des Ambiers, près de Toulon, donc en Méditerranée. Vous le constatez ?
Alors, on le constate d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais très jeune, quand j'étais enfant, la pollution, elle était locale et visible. C'est-à-dire que c'était des gros macro-déchets, et encore, il y avait moins de plastique à l'époque, mais on voyait des batteries, on revenait de la plage avec du cambouis sur les pieds. Aujourd'hui, la pollution, elle est invisible et globale. Aujourd'hui, la pollution, ça va être des micro-particules de plastique, ça va être des rejets toxiques. Il faut quand même savoir que dès que vous utilisez de l'eau quelque part sur la planète, même si vous êtes en haut de l'Himalaya, par le système hydrique, toutes ces pollutions vont arriver à la mer. Mmh. Et la mer doit gérer toutes ces pollutions et l'accélération de nos activités et le cocktail de tous les effets néfastes, que ce soit le changement climatique, l'érosion des habitats, la surpêche, la pollution des eaux, c'est qu'au bout du compte, nous avons rendu nos océans malades et il est temps que nous les guérissions tous ensemble.
Pour autant, tout n'est pas perdu d'avance, hein. Vous nous le disiez il y a quelques minutes, on peut encore inverser la tendance ?
Alors, on peut encore avoir la tendance, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Par exemple, l'augmentation de la température de l'océan, c'est quelque chose qui est lancé et nous ne verrons pas à échelle d'une vie humaine de retour en arrière. En revanche, on peut aujourd'hui arrêter et ralentir formidablement sur la pêche, notamment, et on peut saluer l'effort de l'OMC qui a enfin décidé d'enlever les subventions néfastes à l'activité de la pêche. Donc ça, c'est déjà très important. La FAO, hier, a rendu son rapport sur l'état des pêches dans le monde et vraiment a insisté sur l'importance d'être vraiment durable. Je crois qu'aujourd'hui, la durabilité n'est plus un vœu pieux. C'est une nécessité absolue pour si on veut garder nos océans en vie et si on veut surtout garder cet équilibre qui nous produit à nous, sociétés humaines sur Terre.
Donc c'est quoi la solution pour la surpêche ? Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est l'élevage en aquaculture ?
Alors l'aquaculture est une des grandes solutions puisque l'aquaculture permet d'avoir une gestion durable. L'aquaculture, elle doit cependant cesser de nourrir les poissons d'élevage avec des poissons sauvages, ce qui est encore un peu malheureusement beaucoup le cas. Aujourd'hui, il y a des alternatives. On peut nourrir des poissons avec des farines d'insectes, avec des microalgues, avec des rejets agricoles. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on peut gérer l'aquaculture dans une vision de économie circulaire. On peut également cesser de faire le tour du monde avec des poissons surgelés et avoir des productions locales. On peut également faire des transferts de compétences pour les petits producteurs qui pourraient bénéficier d'un accompagnement scientifique et technique. Et aujourd'hui, l'innovation, elle doit être partagée. Voilà. Il faut vraiment qu'on comprenne que sauver l'océan, c'est non seulement l'affaire de tous, mais c'est pour le bien de tous. Je crois que vraiment l'océan nous oblige à avoir une gouvernance partagée. Et c'est vraiment notre dernier rempart contre l'accélération plutôt dramatique du changement climatique.
Et justement, Patricia Ricard, est-ce que sur ces questions, la France, qui possède le deuxième espace maritime mondial, hein, est-ce que sur ces questions, notre pays donne le bon exemple ?
Alors, écoutez, je pense sincèrement que d'abord, tout le monde se réjouit du retour de la France, parce que la France a été un petit peu absente pendant une trentaine d'années sur cette scène internationale de l'océan. Il faut rappeler que la France a quand même créé le premier One Ocean Summit sous l'impulsion de l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor. La France aujourd'hui fait énormément sur la connaissance scientifique et d'ailleurs nous allons en parler aujourd'hui avec le président l'IFREMER et également la plateforme Océan Climat qui réunit un petit peu tous les acteurs de cette défense de l'environnement océanique et l'importance de la connaissance scientifique sous l'impulsion de Françoise Gayle ou des gens comme Tara. Et surtout il y a une accélération de la compréhension des enjeux par ce qu'on appelle un digital twin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons les capacités de regrouper toutes les connaissances scientifiques et d'avoir des modélisations qui vont nous permettre d'accélérer d'une part la prise de conscience des États membres qui doivent, car rien ne se fera sans l'adhésion des États membres, et également de comprendre les impacts de nos activités. Donc c'est vraiment le temps de la science, le temps de la science est venu et la science doit vraiment nous aider à accélérer la coalition autour de ces décisions.
Il y a la science, mais en revanche il y a une question sur laquelle la position de la France et d'Emmanuel Macron est beaucoup plus ambiguë, c'est celle de l'exploitation minière de nos grands fonds marins. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, personnellement, bien sûr, mon action, je suis évidemment contre cette exploitation, et d'autant plus contre qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ses impacts. Et je crois que la décision de la position de la France est assez claire. Il est impossible d'organiser de l'exploration ou de l'exploitation tant que nous ne connaissons pas l'impact de ces activités. Et c'est pour ça que nous revenons à cette nécessité de mieux comprendre les enjeux de la science. Et je pense que la France l'a dit, il n'y aura pas de décision prise avant que la comité scientifique internationale ait donné un avis ferme et définitif sur quels seraient les impacts de cette activité.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Tous coupables, verdict rendu hier soir au procès des attentats du 13 novembre. Des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible ont été prononcées à l'encontre des accusés. Le Covid nous gâchera-t-il les grandes vacances ? Encore 124 000 cas enregistrés hier. Elisabeth Borne s'entretient aujourd'hui avec les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et des groupes parlementaires. Elle leur présentera un projet de loi visant à maintenir un dispositif de veille et de sécurité sanitaire jusqu'en mars prochain. Et puis l'action climatique de la France toujours insuffisante selon le Haut Conseil pour le climat hier qui appelle à un sursaut. Pour atteindre les objectifs de 2030, la France doit réduire ses émissions de 50%.
Votre partition ce matin, Omblin, nous ramène dans la première moitié de la décennie 90, alors qu'un guitariste blond, torturé, au jean déchiré, du nom de Kurt Cobain, occupe tout l'espace avec Nirvana, sa musique grunge, la résistance, s'organise parallèlement au Royaume-Uni. Sur cette terre sacrée de la pop et du rock, les quatre musiciens de Blur entendent bien remettre la scène anglaise au centre du monde.
Le courant musical qu'ils insufflent n'a pas encore de nom, Julien. La Britpop doit son appellation aux médias britanniques. Elle apparaît comme un vent nouveau qui balaie l'Angleterre et galvanise la jeunesse. En totale opposition aux années 80 et au rejet de l'identité nationale, les jeunes Anglais se réapproprient la fierté britannique. Et l'Union Jack s'affiche fièrement sur les t-shirts et les guitares en 1994. Cette Britpop s'implante en profondeur dans les classements quand Blur explose avec l'album Parklife.
Alors le public n'a pas immédiatement adhéré à la musique de Blur.
Effectivement, c'est ce troisième disque qui fait du groupe de Damon Albarn un phénomène national. Parklife se définit alors comme le maître étalon de cette nouvelle vague du rock britannique. Mais je ne vous apprends rien. Quand je vous dis qu'à ce jeu, pour savoir qui sera le premier, le pionnier, eh bien ils sont deux.
Oui, parce qu'on ne peut pas parler de Blur sans évoquer Oasis.
Ah, nous y voilà, consacré co-leader de la Britpop au début, Blur et Oasis sont sport et partagent le gâteau amicalement. Ils souhaitent d'ailleurs la même chose, tourner à nouveau les projecteurs vers l'Angleterre. Eh bien, ça ne va pas durer.
Blur versus Oasis, ce sont deux conceptions de l'Angleterre qui s'opposent.
Oui, leur rivalité va se cristalliser autour des origines sociales. Londres de Blur contre Manchester d'Oasis, le Sud et le Nord, la classe moyenne face à la classe ouvrière, col blanc contre col bleu. Mais leurs accents sont instrumentalisés pour illustrer leur soi-disant divergence. En comparaison, l'opposition entre les Beatles et les Rolling Stones fait figure de querelle dans la cour de récré.
Mais cette lutte imaginaire fait les affaires des deux groupes.
Et ils alimentent même les histoires et les polémiques avec des sorties dans la presse, plus ou moins de bon goût, quand Blur annonce la parution de son titre Country House le même jour que le Roll With It d'Oasis. Les médias se frottent les mains.
Blur remporte cette bataille en se classant numéro 1 des singles en 1995.
Une victoire de plus, le groupe de Damon Albarn est reparti quelques mois plus tôt avec une jolie moisson de trophées lors des Brit Awards, les récompenses musicales britanniques. Les artistes Britpop sont absolument partout en 1995, le phénomène est à son apogée.
Sauf que Blur s'apprête à perdre la guerre.
Oui, c'est ce qui est écrit en substance dans les journaux. Oasis termine vainqueur dans la lutte avec les albums. Le deuxième disque des mancuniens, What's the Story, Morning Glory, supplante The Great Escape des Londres. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running. Shameless Man de Blur, 1995. Retrouvez en ce moment l'ex-leader de Blur, chef de file des groupes Gorillaz et The Good, The Bad and The Queen sur arte.tv. Le documentaire Une histoire anglaise est consacré à cette icône britannique qu'est Damon Albarn.
Merci beaucoup, Omblin. Et à demain, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Quel accueil.